enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Aujourd'hui, j'aimerais vous poser la question, quel est ton appui ? Quel est ton appui ? Qu'est-ce que tu as pour t'appuyer dessus au quotidien ? Un verset de la parole de Dieu qui m'a vraiment parlé beaucoup, c'est dans Proverbes. Je me rappelle, j'avais lu tout au début de ma marche avec Dieu. Et au chapitre 24, verset 10, il est dit une chose qui peut paraître étonnante pour certains. Il nous a dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Ça nous met une sorte de pression, gentille pression, de dire, si nous sommes enfants de Dieu, si nous disons que nous avons Dieu en nous, Dieu avec nous, et quand ça va mal, et qu'on faiblit, alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peut-être la nature de la force qu'on croyait avoir en nous à notre disposition, cette nature, si elle est faible, alors ce n'est pas la nature de Dieu. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas enfant de Dieu. Ça veut simplement dire que vous êtes mal appuyé. Vous comptez sur des ressources qui ne sont pas celles de Dieu, les vôtres. Alors quand c'est dur, bah vous faites comme tout le monde, vous craquez, vous faiblissez. Mais nous avons une capacité reçue de la part de Dieu qui veut dire que au jour de la détresse, notre force reste une vraie force. Certains ont constaté ça dans des moments qui peuvent être parmi les moments les plus durs, les plus éprouvants de notre vie, quand on perd un être cher, quelqu'un qui était proche dans la famille, et malgré les circonstances dramatiques, on se rend compte que cette personne qui devrait être effondrée, qui devrait pleurer, qui devrait dire « mais qu'est-ce qui m'arrive ?», tout à coup, elle arrive à être d'une certaine façon sereine et pouvoir affronter encore l'avenir avec espoir. Et je pense que ça doit être quelque chose qui doit choquer les mentalités, les gens qui regardent. Alors j'ai envie de dire, quelle est la nature de ta force, Samson ? Interpellez votre voisin, dites, quelle est la nature de ta force ? Samson, vaillant héros de l'Éternel. Parce que lui, on lui demandait, qu'est-ce que c'est cette chose ? D'où ça lui vient ? Comment il l'a reçu ? Et ses ennemis cherchaient à le harceler, à faire toutes sortes de manigances pour essayer de faire trahir ce secret. C'est-à-dire, quelle est la nature de la force ? Quel est ton appui ? Il y a quelque chose qui m'a toujours plu aussi, c'est de voir l'attitude de David, en particulier dans ce fameux épisode de Tsiklag, la ville où il habitait, brûlée, toutes les épouses, les enfants, tous leurs biens avaient été, donc les biens avaient été brûlés, ceux qu'ils ont pu emmener, les ennemis, ils l'ont emmené, tout le monde était prisonnier, et quand les hommes reviennent, ils voient ce désastre, tout le monde pleure, et il nous est dit, ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Ensuite, ils étaient tellement abattus qu'ils ont entré dans une vive colère au point qu'ils voulaient lapider David, leur chef. Ils voulaient le tuer parce qu'ils ont dit, il nous faut un coupable. Actuellement, c'est comme ça. Hein. Il se passe quoi que ce soit, il faut un coupable. Il faut désigner quelqu'un, un responsable, quelqu'un où on puisse, d'une certaine façon, se lâcher et dire, voilà, si c'est de sa faute. Mais il nous a dit, à ce moment-là, David s'appuya sur l'Éternel et il reprit courage. On peut dire qu'il n'avait vraiment plus rien du tout pour s'appuyer dessus. Il avait tout perdu. Et il avait ses propres gens, son armée, qui voulaient se retourner contre lui. Il avait tout perdu, tout sauf Dieu. Et c'est ça qui fait la différence entre le croyant, celui qui marche avec Dieu, et les autres. Parce que les autres, même si vous confessez des fois être chrétien, vous voyez des gens, en fait, leur confiance n'est pas réellement en Dieu. Leur appui n'est quand même pas Dieu. et ça se révèle dans les moments difficiles, dans leurs réactions. Vous avez remarqué chez vous-même? Des fois, ça arrive. On se rend compte que, en fait, si on craque, si on a un moment difficile, on se dit, ah, c'était encore mal orienté. Alors, on peut s'appuyer sur des tas de choses. Sur quoi on peut s'appuyer, par exemple? Je ne vais pas vous demander de passer tous au micro pour dire sur quoi vous vous appuyez. Parce que peut-être c'est pas le moment, vous n'avez pas envie de faire une confession publique de vos égarements, de vos erreurs. Mais une chose sur laquelle beaucoup de gens s'appuient. Allez, une chose simple. Ce après quoi tout le monde court et travaille. Sur l'argent. Énormément de gens s'appuient sur l'argent, c'est pas vrai? Alors j'ai trouvé un petit... C'est un PowerPoint qu'on m'a envoyé. Entre parenthèses, c'était un message. Il y avait des choses très intéressantes. Mais à la fin, c'était... Je vais le dire aussi parce que ça fait toujours du bien d'être un peu au clair. À la fin, il y avait une menace. Vous savez, c'était une chaîne. Alors si vous transmettez cette chaîne, alors vous aurez bonheur et je ne sais quoi, bénédiction. Ils ne le disent pas forcément comme ça, mais plein de bonnes choses, chances qui vous arrivent. Et si jamais vous le cassez, alors là, qu'est-ce qui va vous arriver? Alors j'ai renvoyé une petite réponse à la personne qui m'a envoyé. J'ai dit, bon, j'aime bien tes mails, mais je n'accepte pas les menaces. Alors, il y a un autre mail comme ça qui est arrivé. J'ai enlevé toutes les parties menaces parce que le contenu était bon et je l'ai transmis et d'ailleurs d'autres l'ont eu depuis. C'était un message qui parlait de la différence entre un ami et un copain. Donc ça dit peut-être quelque chose à certains, mais bon, ça continue de circuler. Hein. En tout cas, donc voilà, on revient à l'argent maintenant. Alors, qu'est-ce qui était dedans dans cette notion? Prenez maintenant l'argent comme appui. L'argent, il peut acheter quoi? Il peut acheter une maison, mais il ne peut pas acheter un foyer. Il peut acheter un lit, mais il ne peut pas acheter le sommeil. Il peut acheter une horloge, mais il ne peut pas acheter le temps. Il peut acheter un livre, mais il ne peut pas acheter la connaissance. Il peut acheter une position, mais il ne peut pas acheter le respect. L'argent peut acheter un médecin ou payer un médecin, mais il ne peut pas acheter la santé. L'argent peut acheter du sang, mais il ne peut pas acheter la vie. Il peut acheter du sexe, mais il ne peut pas acheter l'amour. Vous voyez que tellement de gens basent toute leur vie sur l'argent. D'autres, c'est autre chose. Ça peut être le système du monde, ça peut être des diplômes. Certains basent tout sur la famille, d'autres ça peut être les amis. Pour certains, l'appui ça peut être aussi la religion. Des fois on se précipite de nouveau vers une religion. Et toutes ces choses, la Bible nous en parle concernant l'appui. Parce que quelle est la symbolique du monde dans la Bible? C'est l'Égypte, c'est le système de l'Égypte. Or, nous avons quelque chose de très intéressant dans la parole de Dieu à ce sujet, et j'aimerais qu'on puisse prendre ensemble, il y a deux références qui parlent de la même chose, alors vous pouvez le trouver dans 2 Rois 18, verset 21, et aussi dans Ésaïe 36, au verset 6. Alors moi je vais le prendre dans Ésaïe. Je replace le contexte, c'est Jérusalem qui est encerclée par les ennemis, c'est Sanchérib, roi d'Assyrie, il monte contre toutes les villes fortes de Juda, il s'en empare, et voilà, ils sont en route pour Jérusalem, et donc un des envoyés du roi d'Assyrie dit à Ézéchias, le roi de Jérusalem, il dit, 36 verset 4, ça commence déjà, « Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies ?» Donc posez-vous bien cette question, « Quelle est cette confiance sur laquelle je m'appuie ?» Au quotidien, C'est une question à se poser, pas seulement maintenant, mais régulièrement, refaire le point en disant, là je compte sur qui en fait? Je suis en train de compter sur qui pour régler cette question? Peut-être une question de travail, une question personnelle, privée. Alors il dit, je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Ce que tu crois, ce que tu déclares que tu crois en Dieu, c'est des paroles en l'air. Voilà ce que dit l'ennemi. Le diable est en train de te dire, ce que tu crois là, ce que tu es en train de déclarer, de confesser, de proclamer les promesses de Dieu, c'est des paroles en l'air, ça vaut rien. Quelle est cette confiance dans laquelle tu t'appuies? Pourquoi tu oses t'appuyer sur ça? Il dit, il faut pour la guerre de la prudence, de la force, sois raisonnable. Regarde ce qu'il faut réellement pour faire ce que tu es en train de faire. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Le diable n'aime pas qu'on lui ait échappé. Avant, il contrôlait notre vie, et donc il prend très mal la chose qu'on puisse se révolter contre lui. Et on a dit, c'est fini. C'est terminé. Il y a eu une rupture. Au verset 6, voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Il accuse le roi d'Israël, ou plutôt de Juda, d'avoir placé sa confiance dans l'Égypte. Il ne peut pas concevoir qu'en réalité, à ce moment-là, c'était sur une direction de Dieu. Plus tard, le prophète Ésaïe, si vous vous rappelez les circonstances, il dira, voilà, je vais faire en sorte qu'il y aura une nouvelle, et cette nouvelle est arrivée jusqu'au roi d'Assyrie, qu'il y a un autre roi qui se met en route pour t'attaquer, et toute l'armée est repartie et ils n'ont pas touché à la ville. Sur une simple nouvelle. Et là, il est en train de dire, mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'appuies sur rien du tout, des paroles en l'air. Il faut de la prudence et de la force pour faire la guerre. Et il se fait prendre à son propre piège après. Et ça, c'est une façon que Dieu a de transformer le mal en bien et de prendre celui qui vous veut du mal pour se faire attraper à son propre jeu. Des illustrations, nous en avons, comme par exemple, le diable pensait certainement avoir vaincu Jésus, le Fils de Dieu. Et voilà que, par la croix et la résurrection, c'est le plus grand triomphe qu'il ait jamais eu. Quand, du temps de Esther, Haman pensait pouvoir pendre Mardoché, eh bien, la potence qu'il a fait construire, c'est lui-même qui a été pendu. Et etc. Il y a toujours eu des choses comme ça, où par les paroles qu'ils ont prononcées, ces paroles se sont retournées contre eux. Et donc, maintenant, il dit, tu as placé ta confiance dans l'Égypte. Mais ce que je voudrais qu'on puisse retenir, nous, c'est que si nous plaçons notre confiance et notre appui, non pas en Dieu, mais en l'Égypte, dans le système du monde, regardez bien ce qui va se passer. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. On pense pendant un temps que c'est un appui. Pendant quelques secondes, vous pensez que c'est un appui. Et nous, on a peut-être, par notre culture, certains ont peut-être appris la fable de Jean de La Fontaine, le chêne et le roseau. Le roseau, là, il a le beau rôle parce que il se penche quand il y a le vent et puis il ne casse pas. Par contre, le chêne qui est robuste, qui est fort, il est déraciné. Donc là, il dit que des fois, pour survivre, il vaut mieux se pencher, plier, et puis comme ça, on reste vivant. Mais ça, c'est pas du tout notre contexte ici. Ici, on n'a pas du tout une apologie du roseau, et on dit, ça c'est vraiment quelque chose de bien. On a au contraire l'image de quelque chose qui, non seulement ne sert à rien comme appui, mais au contraire, a des conséquences qui font qu'après, c'est pire. Parce qu'il valait mieux pas s'appuyer sur quelque chose qui après vous pénètre et vous perce la main. Et il dit, voilà, c'est ça que vous avez pris comme soutien, l'Égypte. Et il dit, voilà la nature de l'Égypte. L'Égypte, c'est un roseau qui se casse, qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Il dit, bon, je sais bien, peut-être tu me diras, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Donc, il essaye vraiment de déjouer tous les arguments. Donc, Vous n'avez pas le droit, confession de la parole de Dieu, vous n'avez pas le droit, parce que c'est des paroles en l'air. Ensuite, ne dites pas que c'est en l'Éternel, parce que c'est lui-même, en fait, qui vous a conduit dans cette situation dans laquelle vous êtes. C'est ce qu'il est en train de dire. Et combien de fois des doctrines de ce type ont fait des ravages dans l'Église ? C'est Dieu qui l'a voulu pour t'enseigner quelque chose. Il sait mieux que nous. Il tient toutes choses dans ses mains. Tout ce langage qui paraît vraiment religieux, spirituel, inspiré, tout ce que vous voulez, mais qui en réalité, des fois, ne colle absolument pas avec la situation. Les consolateurs de Job ont eu un langage spirituel dans lequel beaucoup de choses étaient vraies. Ils n'ont pas dit que des mensonges. La plupart des choses qu'ils ont dites étaient vraies. Mais elles étaient mal appliquées, parce qu'elles ne concernaient pas la situation de Job. Nous savons que quelqu'un qui s'expose au péché s'expose aussi aux conséquences. Mais le dire à Job, qui était quelqu'un qui avait comme objectif numéro un, intégrité devant Dieu, ce n'était pas le bon diagnostic pour sa situation. Donc on ne peut pas simplement prendre comme ça des choses et les appliquer à une mauvaise situation. Vous réalisez ça? De la même façon que nous, c'est vrai, nous pouvons dire que Dieu est tout-puissant, qu'il contrôle l'univers, qu'il peut faire tout ce qu'il veut, des choses comme ça sont vraies. Mais dans certaines circonstances, ce n'est pas que Dieu ait perdu le contrôle. C'est simplement que dans certaines circonstances, il respecte le libre arbitre, il respecte sa parole et il respecte certains agissements du diable lui-même parce que nous le permettons. Nous le permettons. Donc il faut quand même prêter attention à cela. Donc il reste cette question de quel est notre appui. Jérémie au chapitre 17, il me semble. Regardez, chapitre 17. Un passage qui est bien connu, je pense. Au verset 5, il nous dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui. » Quand on lit « maudit », peut-être nous, on pense toujours à des choses un peu négatives, comme par exemple des gens qui font de la sorcellerie, qui jettent des sorts, voilà, je te maudis. Quand la Bible dit maudit, c'est vrai que la malédiction, c'est quelque chose qui a une conséquence néfaste. La bénédiction, au contraire, c'est la faveur de Dieu. Mais là, c'est simplement, c'est pas une malédiction dans le sens que ce serait une imprécation ou qu'on est en train de jeter un sort. Il dit, je te maudis. C'est pas ça qui est dit. Il dit, l'homme qui agit de cette façon, il attire lui-même des malheurs dans sa vie. Il est lui-même responsable de certaines choses qui vont lui arriver parce qu'il prend la chair pour appui. La chair, c'est tout ce qui est humain, notre nature humaine. Mais réfléchissons aussi aux conséquences que peuvent avoir certaines de nos positions. En qui est-ce que vous vous confiez? Quel est votre appui? Dieu nous a donné, par exemple, en tant qu'époux, l'un à l'autre, pour qu'on soit des appuis l'un pour l'autre. N'est-ce pas vrai? Même dans Ecclésiaste, il est dit, deux valent mieux qu'un, parce que s'il y en a un qui tombe, l'autre relève son compagnon. Donc on peut y voir beaucoup de bonnes choses. D'un autre côté, quand on entend des versets comme ça, l'adversaire immédiatement parle à certaines personnes qui sont seules, ou même qui, tout en étant mariées, sont dans une situation où elles imaginent qu'elles sont seules. Et leur parle et dit, oui, si tu avais un conjoint comme ça, ou qui ferait comme si, ça se passerait pas, et tu irais beaucoup mieux, et donc, tu vois, il remplit pas son rôle, et donc, il essaie d'isoler la personne, au moins dans sa tête. Donc, il est vrai que nous pouvons être donnés les uns aux autres comme des appuis, aussi dans l'Église. Mais nous devons voir que si l'autre est un appui pour moi, si un frère et sœur dans l'Église, des frères et sœurs dans l'Église sont des appuis pour vous, c'est parce que Dieu conduit de manière à ce qu'il puisse vous aider. Mais ce n'est pas vous qui avez choisi telle personne est mon appui. comprenez la différence? Parce que sinon, un jour ou l'autre, cette personne va vous décevoir. Parce que si vous la prenez pour Dieu, vous allez remarquer ses limites. Ça arrive toujours. Il y a des gens qui croient que le pasteur est un superman et que tout va toujours tout seul et qu'il a toujours réponse à tout. Mais ça peut être valable pour n'importe qui d'entre nous. Pour un mari et son conjoint, ça peut être pour des parents, des enfants. Quand les enfants sont petits, ils pensent peut-être que les parents savent tout, peuvent toujours les protéger, peuvent toujours pourvoir à tous leurs besoins, etc. Après, les enfants grandissent et voient les limites de leurs parents. Et ainsi, c'est normal. C'est ce que cette Bible dit aussi, ici, dit « L'homme qui prend la chair pour appui est dans une situation de malédiction. » Et ça, on ne peut pas le contourner. C'est écrit et c'est une réalité. Il nous faut cesser de faire ça. Et il faut traquer dans notre propre vie en disant « Où est-ce que finalement, personne n'aime être charnel, je crois. Hein? Tout le monde veut être spirituel. » Si vous regardez dans le miroir, vous dites « Voilà vraiment un chrétien charnel. » J'ai jamais vu de chrétien aussi charnel que toi en vous parlant dans le miroir. Mais en réalité, vous, chacun d'entre nous, on aime mieux penser à soi en disant « Oui, je suis quand même plus 50% plus 1 dans le spirituel. » C'est vrai que des fois, j'ai quelques attitudes charnelles, mais tout le monde veut se voir spirituel. Mais la réalité, c'est que si nous voulons nous rendre un service à nous-mêmes, il faut dire « Voilà, tel domaine, là, je réagis toujours dans la chair. Dans d'autres, je suis fort. Là, je peux bien me débrouiller. Je fais confiance à Dieu. Je connais les promesses de Dieu. J'agis d'une manière spirituelle. » Mais qu'est-ce qui nous intéresse ? Juste de nous flatter sur ce qui va bien ou d'essayer de voir, tiens, là, ça coince. Moi, je crois que c'est comme si quelqu'un veut passer son permis de conduire. Il faudra toujours qu'il passe cette épreuve. Il ne peut pas un jour dire, je trouve un autre moyen. Cette épreuve sera toujours devant lui. Il peut essayer de contourner comme il veut. Non, ce sera toujours jusqu'à ce qu'on l'ait réussi. Des fois, il faut y prendre plusieurs fois. Mais jusqu'à ce qu'on ait réussi. Dans la vie, il y a les mêmes épreuves qui sont devant nous. On ne peut pas dire, bon, j'évite tel obstacle, j'évite tel autre. Non, on va toujours se retrouver de nouveau face à cette chose. Jusqu'à ce que nous l'ayons surmonté. Il nous est dit aussi qu'il prend la chair pour appui, et ça c'est plus grave, qu'il détourne son cœur de l'Éternel. Dans les Proverbes, il y avait ce fameux cri, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Une fois de plus, Dieu veut votre cœur. Il veut que l'intérieur de vous soit à Dieu. Votre esprit soit en connexion avec Dieu. Que vous entendiez la voix de Dieu. Il est dit, cet homme, il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Une terre salée et sans habitants. Pas très enviable comme situation. Mais maintenant, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Alors là aussi, il y a des traditions religieuses, de certains mouvements, des fois un peu de relations d'aide basées sur la psychologie et qui vous expliquent qu'il y a toutes sortes de situations dans la vie. Vous avez les saisons de la vie. Alors des fois il y a des choses où ça va bien, des fois ça va moins bien. Et c'est normal, c'est cyclique, c'est comme ça que vont les choses. Ici la Bible nous dit autre chose. Elle nous dit, quelle que soit la situation, ton feuillage peut être vert. Vous me direz peut-être, mais ce n'est pas ce que j'expérimente. Oui, mais peut-être ce n'est pas ce que tu expérimentes, mais c'est ce que Dieu veut te promettre, que même dans l'année de la sécheresse, ton feuillage sera vert quand tu viens arroser, mais si c'est l'année de la sécheresse, même si la chaleur de l'épreuve brûle très fort, tes racines sont suffisamment profondes en Dieu pour que tu puisses encore épuiser des ressources. Et c'est ça qui fait la différence, que notre force, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas quelque chose qui se révèle dans la détresse comme étant finalement une illusion, mais c'est une réalité. J'ai des ressources en Dieu. Je suis attaché à lui. On parlait du roseau et de l'appui. Et je pensais aussi combien de fois on a vu cette image de l'appui dans la Bible. En particulier, bon, on a beaucoup de patriarches, c'était des bergers, ils avaient toujours leur bâton. Et je me suis dit, quand même, il y a quelque chose. Je ne vais pas vous refaire le message de l'image de la foi maintenant, mais j'avais fait un message sur l'image de la foi, tel que le bâton était l'appui de la foi pour beaucoup dans la Bible. Et je voudrais juste retenir un aspect, c'est dans Hébreux, au chapitre 11, il nous est dit la chose suivante concernant Jacob. Au verset 21. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez bien comment ça s'est passé, mais si je me rappelle bien de mémoire, Jacob était déjà très âgé à ce moment-là. Joseph avait des fils qui avaient déjà grandi. Et Joseph vient amener ses fils, Éphraïm et Manassé, et il veut que son père les bénisse. Les gens de la Bible avaient une grande compréhension de ce qu'était la bénédiction et la transmission de la bénédiction par l'imposition des mains. La bénédiction du Père, c'était quelque chose qui était précieux. Et donc, il les amène vers Jacob, et puis il veut que Jacob bénisse ses fils. Et Jacob avait déjà, comme il était très âgé, il avait perdu la vue, il ne voyait plus. Et voilà que donc Joseph amène ses fils. Et Jacob, pour les bénir, il croise les mains, et il pose sa main droite qui représente la bénédiction majeure, c'est comme ça, tant pis pour les gauchers, vous m'excuserez. Mais donc, il pose sa main droite sur le cadet. Et il pose sa main gauche sur l'aîné. Et il les bénit donc d'une façon croisée. Et donc, Joseph est très choqué par ça. Il dit, non, mon père, il ne faut pas faire comme ça. Parce que c'est lui l'aîné, il doit recevoir la bénédiction de la main droite. Et donc, il y a des choses comme ça qui nous semblent un peu bizarres dans les histoires de la Bible. Mais donc, ne voyant plus avec ses yeux, Jacob a pourtant une vision spirituelle de ce qui va se passer et il dit, non, mon fils, c'est comme ça que ça va se passer. Il a dit, parce que le cadet, il sera supérieur à l'aîné. L'aîné, il va être béni aussi, mais c'est le cadet. Il voyait déjà un dessein de Dieu et quelque chose qui allait s'accomplir dans le futur. Donc, malgré son handicap, il était à ce moment-là couché, près de mourir. Il ne voyait plus, mais il avait encore une perception spirituelle. Et je me dis, et maintenant, que vient faire ici ce bâton? Est-ce qu'on a besoin d'un bâton dans son lit quand on est couché? Mais je crois que ce bâton ne l'a jamais quitté. Parce que, pour juste votre rappel, il est dit dans Genèse 32:10 que Jacob... Vous savez qu'il avait tout perdu aussi, dans un premier temps. Il avait un père qui était très riche, Isaac était très riche. Vous vous rappelez qu'ils étaient tellement riches que tous les voisins étaient jaloux. C'était dans Genèse 26. Mais, malgré la richesse de son père, Jacob, lui, il a dû fuir et il n'a rien emmené. Et dans Genèse 32, il nous dit la chose suivante, parce que tout est très précis dans la parole de Dieu. Nous aimons ce que Dieu nous a donné dans sa parole. Tout a de l'importance. Au verset 10, il dit, « Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. » Il parle à Dieu, il est en train de prier. Il dit, « J'ai passé ce Jourdain avec mon bâton. » C'est tout ce que j'avais. Il avait ses vêtements et son bâton pour s'appuyer et c'était tout. Et maintenant, je reviens, il revient, il formait deux camps, il avait des troupeaux, il était très très riche. Là encore, il était tellement riche que cette fois-ci, c'était le beau-père et tous les beaux-frères qui étaient jaloux de lui et qui l'ont même poursuivi un moment. Ils voulaient le garder auprès d'eux pour garder en même temps toutes les richesses. Et dit, j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Il dit, je n'avais rien, juste mon bâton. Pour m'appuyer dessus. Alors en quoi c'est utile pour nous? c'est de réaliser maintenant, nous voyons à la fin de sa vie, un Jacob en train d'adorer Dieu, appuyé sur son bâton. On peut dire que ce bâton représente la foi. Il représente de la même façon que pour d'autres, Moïse a écarté la mer Rouge avec son bâton. Il a frappé le rocher et de l'eau est sortie de son bâton. À un autre moment, il a frappé deux fois le rocher alors qu'il ne fallait pas le frapper. Et cette fois-ci, ça s'est retourné contre lui. Ça nous parle du bon usage de la foi. Et David était venu contre Goliath avec son bâton de berger. On pense toujours à David et sa fronde. Mais en réalité, David a vaincu Goliath avec quelles armes? Il avait trois armes. Il avait son bâton de berger, il avait sa fronde, et après il avait l'épée de Goliath qui lui a pris et où il l'a achevé, il a coupé la tête du géant. Mais d'abord, Goliath n'a pas vu David venir avec la fronde, il n'était pas en train de tourner sa pierre. Il a vu juste avec son bâton de berger. Il a dit, mais est-ce que je suis un chien pour que tu viennes à moi avec un bâton? Il a méprisé ce que David avait. Et vous vous rappelez aussi que dans l'armée d'Israël, personne ne concevait d'attaquer ce géant juste armé comme un berger. On a dit, bon, on va te donner l'armure de Saül, c'est la meilleure qu'on ait. Et on sait que ce n'était pas adapté pour David. Et David est venu avec son bâton. Et je crois là encore, quand il est dit que David se battait contre le lion et l'ours, ben c'était l'arme naturelle du berger. Ils avaient un bâton. Actuellement encore, il y a des gens, maintenant on vend même des bâtons pour randonneurs. Il y a des gens qui utilisent des cannes, des appuis, et toutes ces choses sont naturelles, et moi je crois que ça symbolise quelque chose. Quand le Seigneur a dit à ses disciples d'aller deux par deux, il a dit, ne prenez pas deux tuniques, n'en mettez pas d'argent, etc. Il a dit, mais prenez votre bâton. Le bâton du pèlerin, c'est un peu devenu une image un peu classique, le marcheur avec son bâton. Et ça représente quelque chose. Les sorciers aussi, les magiciens, ils ont leur bâton, ils ont leur baguette. Et je me dis, à quoi ça sert ça? À quoi ça sert? Est-ce qu'il y a de la magie qui rentre dans ce bout de bois ou de je ne sais quoi? Je crois que c'est avant tout quelque chose que nous devons comprendre spirituellement. C'est que ce qui est esprit cherche à se matérialiser. Ce qui est d'un monde invisible, de domaine que nous ne voyons pas, cherche à agir dans ce monde dans lequel nous vivons. Et ça cherche à se matérialiser. Et ça se matérialise de quelle façon? On peut dire d'une certaine façon, par la foi des individus. La boule de cristal de la voyante, ce n'est pas un téléviseur. Elle n'est pas en train de regarder et de dire, bon, qu'est-ce qu'il y a ce soir à regarder, quel est le programme? C'est une façon dont cette personne se concentre, se met en communication avec les mauvais esprits, les démons, et il cherche là, dans l'occultisme, à voir des choses qu'une personne normale ne voit pas. Ça, c'est une des réalités du monde spirituel. Le magicien, le sorcier, cherche avec son bâton, avec sa, on peut dire, sa dédicace aux arts magiques et autres, il cherche à ce que quelque chose se manifeste dans le monde dans lequel nous sommes matériels. Ce qui est spirituel cherche à se manifester dans le monde matériel. Sauf que le diable est un hors-la-loi avec ses démons. Il cherche toujours à violer toutes les lois qu'ils peuvent et à manipuler les gens. Et le Seigneur est celui qui respecte sa parole. Il respecte la volonté des gens et il ne veut agir qu'au travers des volontaires que nous sommes, vous et moi. N'est-ce pas vrai? Donc, lui cherchera à se manifester dans le naturel au travers de votre bouche, au travers de vos mains, au travers de votre foi. Et nous n'avons plus de bâton. Et nous n'avons pas toute une symbolique dans nos églises parce que nous cherchons non pas à remplacer le vrai par du symbole ou par des ersatz, comme on dit, mais nous cherchons à justement apporter le vrai. Notre foi est en Dieu. Notre foi n'a pas besoin d'une bougie allumée, n'a pas besoin d'un bâton, n'a pas besoin de parfum ou de choses comme ça pour dire voilà, ça c'est la présence de Dieu. Notre foi est en lui. Mais nous voyons dans les illustrations telles qu'elles sont données que les gens dans la Bible avaient, parce qu'ils étaient humains, des fois des appuis de toutes sortes. Seulement, il faut se méfier de nous-mêmes en disant « Où est mon appui ?» Je me rappelle d'une personne, je ne veux pas critiquer quelqu'un, d'ailleurs, ça fait des années qu'on ne l'a plus revue, mais elle était tellement attachée à son châle. Elle disait « Oh, je ne peux prier que si j'ai ma tête couverte. » Et ça paraissait tellement religieux. Et j'ai dit « Mais où est sa foi ?» Donc, en quoi elle a placé sa foi ? C'était vraiment, pour moi, tout de suite dans l'esprit, j'ai dit « Il y a quelque chose qui ne va pas. » Si on aime s'habiller d'une certaine façon, si on est à l'aise dans une position de prière, si on a sa petite chambre où on prie, toutes ces choses peuvent être bien. Mais si ça devient le seul endroit où je rencontre Dieu, ça ne va plus du tout. Vous êtes d'accord avec moi? S'il n'y a qu'une seule façon dont je puisse expérimenter la puissance de Dieu, alors ça ne va plus. Ah non, nous avions tellement d'exemples dans la parole de Dieu concernant les bâtons et ces extériorisations. On avait par exemple aussi le bâton d'Aaron. Vous savez, celui qui a poussé une branche, a fleuri et même des fruits sont venus. Un morceau de bois qui était bien mort et qui a repris vie. Ça, c'est toutes les choses que Dieu peut faire au travers de nous. Mais repensons maintenant le bâton, le support de l'adoration. Notre foi, c'est le support de notre adoration. Il y a des gens qui adorent l'adoration, c'est un problème. C'est un problème. On peut adorer la louange, mais nous sommes appelés à adorer Dieu. Et la foi, pour ça, c'est quoi? C'est notre support. C'est l'objet de notre culte n'est pas la foi. Nous ne sommes pas en train d'adorer la foi. Nous ne sommes pas en train de dire « Mon objectif, c'est d'avoir une grande foi. » Non, la foi n'est qu'un moyen. Éphésiens 2 nous dit, je crois, quelque chose à ce sujet. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est une méthode de Dieu. C'est le moyen qu'il a choisi pour nous amener à autre chose. Adorer l'adoration devient une aberration. On est complètement à côté, alors. On fait juste une ambiance et on n'a pas cette relation avec celui qui est le sujet de notre adoration. C'est ainsi que sur quoi on s'appuie? On veut s'appuyer sur l'Éternel, lui seul, sur la confiance en lui, pour qu'on puisse justement tirer nos ressources de Dieu lui-même. Alors je vous pose la question, quand c'est dur, vous allez vers qui? Vers qui vous tournez-vous? Si dès que vous avez un problème, vous allez par exemple, il y a des gens, bon, c'est naturel, on en parle à son conjoint. Je dis, le conjoint doit devenir le numéro 2. C'est Dieu qui doit devenir le numéro 1. C'est trop lourd pour lui, il ne peut pas vous sauver. Il n'en est pas capable. Malgré que vous trouvez qu'il est formidable, il n'en est pas capable. Il a besoin que vous alliez d'abord vers Dieu. Ensuite, peut-être vous avez besoin de quelqu'un qui soit là pour vous soutenir et ça sera la personne que Dieu aura placée. Si vous avez un moment difficile et que vous décrochez le téléphone et que vous appelez tout de suite quelqu'un, c'est un problème. Voyez ? D'abord, il faut que vous sachiez sur quoi vous vous appuyez. Il y a des gens, quand c'est dur, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont leur méthode. Chacun a ses petites choses. Ces petites habitudes. Pour quelqu'un, ça peut être la bouteille, l'alcool. Dès qu'il y a un moment difficile, hop, on se donne du courage de nouveau. Et puis, peu à peu, on devient dépendant. On n'a aucune solution à ces problèmes, mais on se sent bien pour un temps. Mais après, on est esclave. Pour d'autres, ça peut être la drogue. Moi, je pense, d'après, je n'ai jamais goûté, grâce à Dieu, mais je pense que, d'après ce qu'on nous dit, il doit y avoir un moment quand ils sont high, comme ils disent, il y a un moment de sensation forte. Mais après, il y a l'enfer de l'esclavage, la déchéance, et le salaire du péché, c'est la mort. C'est d'avoir complètement loupé. Mais nous ne sommes pas là pour condamner ni les ivrognes, ni les drogués, ni tout ça. simplement de montrer que si c'est un réflexe que nous avons, alors il y a un problème. Pour d'autres, ça peut être d'autres choses, nourriture, chocolat ou d'autres choses que nous pensons moins dramatiques, mais qui en réalité dénotent quelque chose en nous. Où est l'appui? Où est l'appui? Vers quoi se tourner quand ça va mal? Éphésiens encore nous dit quelque chose d'intéressant. Au verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. On avait commencé par, si tu faiblis au jour de ta détresse, ta force n'est que détresse. On va terminer par Éphésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et là, je voulais juste souligner spécialement ce « résister dans le mauvais jour ». Il est facile de résister dans le bon jour. Quand tout va bien, chacun peut résister. Des fois, on demande « ça va ? » ?»« Oui, ça va ?» Ben oui, si tu n'as pas de problème actuellement, c'est facile de dire « ça va ». Mais si tu es en train de traverser quelque chose et pourtant tu as une attitude de foi et que tu sais que quelque chose, une issue heureuse est à la fin, alors c'est mieux. J'avais pensé aussi que par rapport à cette matérialisation, on a de la symbolique. Par exemple, la plupart des royaumes, le roi, il a un sceptre. C'est un bâton qui représente son autorité et par lequel il peut régner. Donc là, dans ce sens, c'est un emblème de quelque chose. Ça représente quelque chose. Il n'y a pas de force en lui-même dans l'objet. C'est seulement ce qu'on y met. C'est parce que tout le peuple qui regarde ce sceptre dit, voilà, ça c'est le roi, ce sceptre lui appartient de droit et à cause de ça, on doit le suivre et lui obéir. Donc il y a tout cela. On va juste terminer le passage éphésien. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voyez la différence entre le mauvais jour. Attendez que je le retrouve. Résister dans le mauvais jour, et là, faites en tout temps par l'Esprit. Moi, je crois que justement, cette façon de prier dans l'Esprit, d'être connecté à Dieu constamment, ça nous permet que quand le mauvais jour arrive, quand la chaleur, elle est là, bien, notre feuillage reste vert. Et on a encore des ressources en Dieu. J'entends beaucoup autour de moi des personnes, ils sont fatigués, des gens qui parlent du repos qu'ils ont besoin. Je crois qu'on a besoin d'expérimenter le repos de Dieu. On peut toujours se dire, ah, quand viendra le temps des vacances, là, je pourrai souffler, je pourrai me reposer, après ça ira mieux. Moi, je crois même ça peut être une façon de s'appuyer sur la chair. Peut-être, c'est vrai, on a besoin de ralentir nos cadences et nos rythmes des fois. On a besoin d'un temps aussi de détente ou de repos. Mais avant tout, je crois que nous avons besoin de découvrir le repos qui est en Dieu et de laisser renouveler par sa force. Vous voulez recevoir la force de Dieu? Parce que celle de hier ne vous sert plus, hein. C'est fini, c'est déjà terminé. Mais nous voulons nous laisser remplir par Dieu en cet instant même. Amen. Alors, prenons ce temps pour prier, pour nous exposer à l'action de Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour ta volonté à notre égard. Merci, tu aimes tellement tes enfants. Tu nous as bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Merci pour l'action de ton Saint-Esprit en nous. Et nous nous attendons aussi à un renouvellement tout entier, esprit, âme et corps. Merci Seigneur, nous ne nous voyons pas nous-mêmes comme des gens fatigués, exténués, faibles, mais nous nous voyons tels que tu nous as recréés en Jésus-Christ. Par le moyen de la foi, nous recevons les ressources du ciel, nous recevons des forces nouvelles, nous recevons de l'inspiration, nous recevons du zèle, le zèle de l'évangile de paix. Nous recevons de l'enthousiasme pour les projets de Dieu, des projets que tu as formés sur nous, des projets de paix, des projets de bonheur et non de malheur. Merci pour les projets de Dieu. Merci pour la révélation par ton Saint-Esprit, des choses que nous pouvons entreprendre en ton nom. Merci parce que tu nous as choisis pour que nous soyons co-ouvriers avec toi. Amen. Cette pensée qu'il vaut mieux faire envie que pitié, je crois qu'il faut vraiment rendre jaloux les personnes autour de nous. Mais comment tu fais? D'où te vient toute cette énergie? Mais c'est pas croyable tout ce que vous pouvez accomplir avec l'aide de Dieu. Il faut vraiment s'opposer à cette idée que nous sommes pauvres, faibles, fatigués, toujours fatigués. Il y a une bonne expression en anglais, c'est « je suis fatigué d'être fatigué et malade d'être malade ». Et donc, moi je crois que nous avons vraiment un défi qu'il nous faut relever. Vous voulez le relever ce défi? Laissez Dieu vous changer, avoir une énergie supplémentaire. Alors, encouragez-vous par la parole de Dieu, vous-même ou d'autres.